48 FM sur Mende avec le 94.1.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 18e émission Par le bout de la lorgnette et première de cette deuxième saison. Alors après un été studieux, nos chroniqueuses et chroniqueurs sont prêts à vous faire découvrir les livres de cette rentrée littéraire avec Héloïse qui est là aujourd'hui. Salut Héloïse.
Salut.
Valérie aussi.
Bonjour.
Pauline de retour.
Bonjour.
Et Nico.
Bonjour.
Alors une rentrée littéraire comme chaque première émission de rentrée, ce qui paraît logique.
Alors, oui,
vous
tout
avez,
à fait, oui.
Vous avez tous lu cet été, vous avez bien travaillé.
Oui.
Oui Valérie.
On a beaucoup lu, hein. Oui.
Beaucoup lu.
Ah ouais, plein
très
de
bien.
Bouquins.
Il paraît qu'il y a une personne entre nous qui n'a pas lu, mais bon, on ne donnera pas de nom.
Vous devinerez au cours de l'émission.
Ça, on devinera au cours de l'émission.
À tous les coups, c'est Louise.
Et en tout cas, c'est pas Pauline, parce que c'est Pauline qui va débuter cette émission par le journal d'un caméléon de Didier Goupil. Oui, oui, comme le renard. Didier Goupil. Allez, ça démarre en blague. Pauline.
Il faut voir le niveau de la blague aussi.
C'est bien, c'est dans le ton.
On me l'a soufflé.
Du coup, c'est au serpent à plumes. L'histoire, c'est celle du peintre Comestève. Alors moi, que je connaissais pas du tout. C'est un peintre qui, au départ, il est là à se démener dans l'hôpital psychiatrique dans lequel il est interné après une rupture. Il a sa boussole et il cherche le coin fumeur. Et il n'arrive pas à le trouver. Il longe les murs, il tâte les murs, il a sa lampe de poche. Enfin, il est vraiment perdu. Il trouve pas. Et donc, au fil de son périple, il va se rappeler un peu sa vie. Et sa vie qui est complètement délirante. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est inspiré ou copié vraiment de la vie de ce peintre, parce que c'est hyper étonnant. Il a notamment, par exemple, pour commencer sa vie professionnelle, décidé d'élever des chinchillas pour faire des manteaux de fourrure. Il a vécu dans la montagne, il a vécu des vies de fêtes partout dans le monde. Enfin, c'est vraiment du délire total parce que, bah, de par la personnalité un peu du héros, et aussi dans l'écriture, c'est assez drôle, c'est un humour parfois un peu noir, décalé, inattendu. C'est un peu, c'est marrant, c'est rigolo, alors que la base de l'histoire est franchement pas drôle. Il a des épisodes vraiment tristes, durs dans sa vie, mais c'est toujours raconté avec cette finesse, ce petit trait d'humour qui fait qu'on passe un bon moment là à la lecture et on découvre un peu voilà, cette personnalité de caméléon, d'homme qui s'adapte à tous les milieux qu'il fréquente et l'histoire du peintre qui a forcément, d'après l'auteur, plusieurs personnalités.
Et du coup, ce peintre, il a réellement été interné sur la fin de sa vie ou tu sais pas du tout ?
J'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver, alors j'ai trouvé son site internet, mais il parle pas du tout du lien qui peut exister entre la vraie vie de Comestève, donc et voilà, un peintre vraiment, et le livre de Didier Goupil. Bon, a priori, c'est une biographie, donc, mais notamment dans le bouquin, c'est indiqué juste à la fin. Moi, je l'ai découvert à la fin. Il te dit site internet du peintre et il te donne l'adresse du peintre.
Et donc, il est encore vivant, en fait.
Il est encore vivant.
Ah,
ouais,
oui,
ouais, il est encore vivant.
On pourrait l'appeler pendant l'émission.
Hein, moi, je serais curieuse de savoir un peu ouais, la part de vrai, parce que bon, je vais pas tout vous spoiler, mais c'est vraiment étonnant comme vie. Il a une vie rigolote, on a envie de le rencontrer et de savoir un peu, d'en savoir plus sur son parcours, alors qu'on en apprend déjà pas mal dans le bouquin. Quoi.
Et esthétiquement, ça donne quoi ces peintures? Si tu as vu le site internet, c'est plutôt quel style?
Il y a un peu de tout selon les périodes. Il a eu des périodes de collage, de gribouillage. Il allait, par exemple, dans la montagne, il ramassait des brins d'herbe, de la terre, il collait tout. Il a fait de la peinture un peu, on va dire. C'est un peu violent. Il y a un côté violent et en même temps, ça ne va pas du tout ensemble, mais très doux.
Okay.
Voilà l'idée.
Donc c'est une biographie romancée, finalement.
Bah, C'est là le mystère.
C'est là le mystère.
Je sais pas. Je pourrais pas vous le dire. J'ai pas trouvé la réponse nulle part.
On va essayer de se renseigner pour la prochaine émission. Ouais. La maison d'édition, peut-être, on saura plus, c'est qui ?
Le serpent à plumes.
Le serpent à plumes, on va essayer de voir. Avec eux. C'est un peintre de quelle origine ?
Français.
Français,
c'est ouais, d'accord. Il est français.
Quelqu'un ici connaissait ce peintre avant qu'on en parle ? Non. Nico, toi qui...
Non, du tout, non.
Du tout ?
Non.
Spécialiste de l'art
Non, pas vraiment, mais en peinture, il y a tellement de monde qui...
Oui.
Voilà. Après, il y a ceux qui sont connus à titre posthume. Voilà, après, on découvre leurs œuvres.
Mmh. Mais
Enfin, des peintres dont on fait une biographie, c'est pas non plus.
Mais voilà, d'où, pourquoi Didier ouais, Goupil s'est dit je vais
c'est
faire.
C'est peut-être un support, tu vois.
C'est peut-être son voisin.
C'est ça.
Peut-être tout simplement. Non, mais,
c'est un prétexte à écrire après, tu vois. Pas forcément. Est-ce que ça parle beaucoup d'art dedans ?
Oui, oui, ça parle oui. De grands personnages de l'art, de Dali qui était comme Estève aimait beaucoup. Oui, oui, ça parle beaucoup d'art, de la peinture, mais aussi de littérature, de l'art en général. C'est quand même une réflexion sur l'artiste, sur qui est l'artiste.
Et donc c'est à la portée de tout le monde ou il faut avoir une base d'histoire de l'art
Non, c'est à la portée ouais. de tout le monde, sans problème.
Est-ce que ça donne envie d'aller voir des musées Ou des
pas
œuvres,
particulière...
des expos.
Moi, des pas particulièrement. Moi, c'est pas ça. Là, c'est plus sa vie. Alors, le but n'est pas vraiment là.
C'est de l'arbre dont il parle ou pas
non, 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 non. Il parle vraiment de sa vie, ce qui l'a mené à devenir peintre. Mais alors après, il y a des épisodes qui n'ont rien à voir avec l'art, mais qui l'ont mené à tel ou tel endroit, qui l'a inspiré. C'est... sur les différentes personnalités de l'artiste plus que sur son travail. Voilà, un peu l'idée.
Est-ce que ça t'a plu ?
Beaucoup, oui. Ouais, ça m'a fait rire, ça m'a étonnée, oui, ça m'a plu. Ouais.
C'est abordable à partir de quel âge ?
Pour les c'est adultes. Pour ouais, 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 c'est pour les adultes.
Ok, ben on rappelle Journal d'un caméléon de Didier Goupil. On rappelle aux éditions
Du
serpent à plumes.
Allez, c'est pour cette rentrée littéraire. Beaucoup de livres en cette rentrée littéraire. On va essayer de vous donner quelques clés dans cette émission et également dans la prochaine, Héloïse, parce qu'il y a tellement à dire que...
Oui, voilà, il faudra au moins deux émissions.
Deux émissions, voire
pour
plus.
Faire un peu le tour de nos coups de cœur, je pense.
Ah non, un thème pour la troisième.
La troisième émission, on aura un super thème, effectivement.
Ah, ça ira de Denis Lachaud, tant mieux parce que moi, j'ai froid. Alors, ça, c'est les lancements que Valérie m'écrit. Super, ça tombe bien.
Alors, il faut dire, est-ce qu'on peut parler du physique dans cette émission ?
On ne touche pas au physique.
On ne touche pas au physique, ni au
masque. Parce que Valérie, aujourd'hui, elle est arrivée, c'était sa rentrée aussi.
Ouais.
Elle avait son petit cartable, Toy Story.
C'est ça, que j'ai volé à mon fils.
Voilà, ses couettes.
Ouais.
Elle a mis les couettes et tout ça.
Mais j'ai plus trouvé mon appareil dentaire que j'avais fait pour l'émission spéciale littérature pour ados.
On en refera un.
Par contre, elle a toujours ses boutons.
Ça, c'est...
ça part pas comme ça, tu
sais. Biactol, si tu m'écoutes. Voilà, non, mais ça, c'est mon éternelle jeunesse.
Ouais,
voilà.
C'est bien.
Le temps n'a pas d'emprise sur moi.
Voyons, on s'amuse dans cette émission. Ouais, c'est venu aussi pour ça.
Non, c'est quand je t'envoie un mail avec des jeux de mots, c'est
faut privé. Pas que je les ressorte. Ah, c'est privé.
Selon l'heure à laquelle je te les envoie, c'est. Voilà.
Ouais.
Donc, ça ira, enfin, peut-être pas. On va voir, c'est pas sûr que ça aille. Ça ira, donc, c'est un livre de. Denis Lachaud. Denis Lachaud, c'est un écrivain, enfin, c'est plus un homme de théâtre à la base, puisqu'il est avant tout metteur en scène au théâtre. Et en littérature, il a quelques ouvrages. Et là, c'est vraiment mon coup de cœur de la rentrée littéraire. Donc ça ira. Donc,
en fait, d'un côté, tu as lu que deux livres. Hein.
Non, que celui-là. Non, c'est mon coup de cœur. Voilà. Enfin, si Closer, ça compte pendant l'été,
non,
ça compte pas. D'accord.
Donc, ce n'est pas de la littérature.
Oui, non plus.
Ah bon
oh. Ah, si, oui, ça compte.
Ça compte pour si on fait une émission jeunesse. Petit rond, quand même, tout ça. Donc voilà, nous sommes en 2015 et nous allons vivre la vie d'Antoine. Antoine est un employé lambda dans une imprimerie, un homme ordinaire, dirais-je. Il est marié à Chloé et papa d'une petite Rosa. Antoine, en parallèle de sa vie rangée, s'appelle aussi Saint-Just. Il s'appelle Saint-Just car il fait partie d'un groupe contestataire, un groupe révolutionnaire qui s'appelle Ventose. Il a pour frère d'armes des Robespierre, des Marat. Et un jour, il décide donc de passer à l'acte et ils enlèvent le président de la République. Selon lui et ses camarades, les politiques au pouvoir sont en train de plonger la France dans une crise économique dont elle ne se relèvera pas ce coup-ci.
Donc, un événement va faire qu'il se retrouve, donc, Antoine, en prison pour avoir tué donc, le président de la République, séquestré, humilié. Donc, ça commence, c'est très gai, hein. C'est quand même assez violent. Mais en fait, on va de suite se prendre d'amitié, avoir de l'empathie pour ce tueur. On va suivre sa vie. Il passe 20, normalement, donc il est emprisonné à perpétuité.
Mais ça se passe à quel
2015. C'est aujourd'hui. Et donc, on part 21 ans plus tard.
2036.
On suit quand même un peu sa vie en prison. Et après 21 ans de détention, alors moi, j'avais écrit 2037 sur mon papier, mais j'ai du mal calculer. Maintenant, j'ai pas
oui,
fait.
Oui, ça, 15 plus 31, ça fait 36.
J'ai 21.
Plus 21, ouais. Ça fait 36.
Mais je pense, et demi, en fait. Il a dû faire un trimestre en plus.
Ah,
ouais.
D'accord.
Qui compte pour la
retraite.
Pour la retraite,
voilà, c'est ça. Ça
parce que tous les trimestres, tu vois, aujourd'hui,
cotisés, mais non validés.
Voilà.
Voilà. Donc, Antoine sort de prison pour bonne conduite, mais avec bracelet électronique et obligation de ne pas quitter l'Île-de-France. Durant toutes ces longues années dans sa cellule, il va beaucoup travailler sur son physique, sur son mental. Il va s'imposer une hygiène drastique. Et comme le monde extérieur lui interdit, il décide lui aussi de s'interdire d'avoir accès au monde extérieur. C'est-à-dire qu'il se coupe complètement de tout ce qui se passe au dehors. Donc pour quelqu'un qui était contestataire révolutionnaire, il s'est vraiment fait violence. Le seul contact qu'il a, donc, c'est avec sa fille Rosa, qui viennent de façon régulière le voir et à sa majorité va prendre l'habitude d'aller le voir vraiment de façon régulière. Et ça va être dur pour lui parce qu'il souhaite pas savoir se situer dans le temps. Et le fait qu'elle vienne de façon régulière, que tous les ans elle lui fête son anniversaire, il sait où est-ce qu'il en est du temps qui passe. Mais malgré tout, ça lui permet de garder un lien humain avec quelqu'un de l'extérieur. Et donc, à sa libération, c'est donc elle qui va prendre en charge sa réinsertion dans la société. Donc, 21 ans plus tard.
Mais elle a quel âge, sa fille ?
Il a été emprisonné, je crois qu'elle avait 5 ou 6 ans.
Donc, elle a 26 ans.
Donc, voilà, enfin, c'est une jeune adulte. Elle est prof, elle est un peu contestataire, elle aussi. Donc, Antoine, donc, il n'est pas à bout de ses surprises. Parce que
tu penses qu'elle est pour ou contre la réforme ? Des collèges.
Joker. Non, je dirais qu'elle est pour en plus.
On s'en fout, on est en
2037. Parce qu'elle est contestataire, mais pas sur ce
genre. On est en 2036, donc.
D'ici là.
Il n'y a plus d'école en 2036.
Non, on a l'impression que ça peut, par contre, que ça peut évoluer, en fait, en termes de travail. Enfin, malheureusement, dans son discours, on a l'impression que la société, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que tous les problèmes se sont accentués et que rien n'a été fait, que les gens sont. On a l'impression que ça, en 2037, là, quand ça se passe, on a l'impression que tout va péter, qu'on est dans une cocotte minute, mais il ne se passe rien chaque fois que la cocotte est prête à exploser, pouf, ça redescend. Et donc, notre cher Antoine, tout ce qu'il craignait que la France devienne, c'est arrivé. C'est-à-dire que la France est devenue, c'est un chaos, il y a eu des gouvernements qui se sont remplacés et ça, les choses se sont empirées. Et voilà, il y a des, on voit les crises, les jeunes qui, comme Rosa par exemple, donc je disais, elle est enseignante, elle va être SDF parce qu'elle peut plus se loger. En fait, son salaire d'enseignante ne lui permet plus d'avoir un logement. Les migrants dont on parle énormément dans le livre sont stockés dans des zones de séjour temporaires en périphérie des villes. On a construit autour des villes, entre les banlieues et les campagnes, on a construit des grands murs.
Non, mais là, tu parles de la Hongrie, là, non ?
Là, je te parle du livre de Denis Lachaud qu'il a écrit l'année dernière. C'est assez flippant.
Parce ah ouais, ça fait...
Ouais. Là, je lisais le livre, je fermais, je regardais le journal, je rouvrais le livre, je n'avais pas trop de mal à faire la transition entre les deux. Donc, ils ont construit autour des grandes villes ces grands murs. Les banlieues, pour qu'elles soient moins sordides, on leur donne des noms de Molière, de Prévert, enfin, on donne des...
En fait, il décrit la société actuelle, quoi. Tout ce que tu es en train de nous raconter, ça existe déjà maintenant.
Oui, voilà, empire, voilà, c'est-à-dire... Et l'utilisation, et l'utilisation de plus en plus malsaine des médias, enfin, on est au paroxysme de tout ce qui peut être espionnage, enfin, chaque personne est suivie, la police travaille avec des drones, enfin, c'est...
C'est gay ?
Non, c'est affreux. Et mais ça, c'est la première partie du livre, parce qu'on sent qu'il va se passer quelque chose. Donc, en parallèle donc, à tout ce...
Ça va péter ou ça va pas péter ?
Ben, tu vas voir. En parallèle.
On ne dit pas tout. Hein,
ouais. En parallèle, donc, à ce merdier ambiant, pour parler clairement de ce qui se passe... Il y a le lien père-fille qui va être mis en avant. Il va y avoir d'autres personnages dont je ne vais pas parler parce que sinon ça va trop rentrer dans le détail, qui vont se greffer. Des jeunes qui vont être suivis, dont on va découvrir la vie de la naissance jusqu'à ce qu'ils rencontrent donc ce monsieur Antoine. Et puis les conséquences donc d'Antoine qui va découvrir que sa fille Rosa, en fait, elle a hérité du même trait de caractère que lui, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas subir sa vie sans contester. Là, donc Rosa va créer un mouvement révolutionnaire. J'ai presque envie de vous dire comment elle le fait, mais je ne vais pas le dire. En fait, elle va laisser tout ce qui est violence. Non, je ne vais pas le dire. Elle va laisser tout ce qui est violence de côté. Elle va réussir à créer un groupe totalement pacifique. Et la révolution va passer par la solidarité. Et ça marche. Et c'est peut-être utopique, mais ça marche. Voilà. Et c'est moi, ce qui m'a conquis dans ce bouquin, c'est l'humanité qu'il y a. Autant la première partie, on a le meurtre d'un président avec son humiliation, mais en même temps, le président, on n'a pas d'empathie pour lui parce qu'il est... il nous donnait pas envie de l'aimer. Par contre, le bel assassin en question, comme on va le suivre, on va être conscient de ses revendications.
On va s'attacher à lui.
Pourtant, c'est un assassin. Mais... Et puis, il va y avoir
ça marche beaucoup, les anti-héros.
Ouais. Et là, puis, il est pas... il reconnaît ses torts. Il va pas justifier que c'était bien. Il va quand même être humble. Et il va essayer de réparer, ses torts. Et il va vivre sa vie après, un très bon petit citoyen. Mais sa fille, finalement, prend le relais, mais sur une autre forme. Il va y avoir les rencontres avec d'autres personnes, les engagements, et comment, en fait, la solidarité peut finalement changer le monde. Et si ce n'est pas un livre qui est optimiste, ça remet l'humain, en fait, dans son contexte, et on se rend compte que le plus important, c'est l'humain. Et s'il décrit un monde qui, aujourd'hui, qui est complètement mal en point, il va proposer tout un tas de pistes, Denis Lachaud, mais beaucoup, pour essayer de changer le monde, pour changer le cours des choses, et sans violence.
Mis à part qu'il écrit en polaire, on connaît quoi de Denis Lachaud ?
On sait qu'il a écrit pour le théâtre, il a fait quand même quelques romans, comme Apprendre l'hébreu de mémoire. Je dirais 2-3 autres.
Héloïse, c'est chez Actes Sud. Hein.
C'est chez Actes Sud, ouais.
Oui. Non, je ne connais
j'apprends
pas.
J'apprends l'allemand aussi.
C'est pas j'apprends l'hébreu plutôt ?
Non, c'est j'apprends l'allemand.
Non, j'étais persuadée que c'était j'apprends
la
l'hébreu.
La forme profonde, comme personne, le vrai est au coffre. Prenez l'avion, j'apprends l'hébreu aussi, donc. Il y a aussi j'apprends l'allemand. Alors j'apprends l'hébreu, c'est en 2011, j'apprends l'allemand en 98.
C'est ça,
en 98. Donc, entre les temps, il a fini d'apprendre l'allemand.
Ouais.
L'homme inépuisable, c'est ça. Voilà. Asaïra. Son dernier en 2015.
Voilà.
Ouais, donc il fait beaucoup de livres à son actif. Ouais. Ouais. C'est combien de pages ouais. C'est un peu.
C'est très productif. Hein.
C'est un roman.
Il y a 400 pages, un peu plus de 400
pages.
400 pages,
mais c'est un format assez petit, c'est écrit gros. Ouais.
C'est un format Actes Sud.
Format Actes Sud, ouais.
Non, ça se lit bien, c'est assez. L'écriture, elle est assez. Elle est assez facile à lire, mais ça marque. Enfin, c'est une lecture qui est assez coup de poing, parce que celui qui ne se sent pas concerné, c'est qu'il n'habite pas sur la même planète, en fait. Voilà.
Ok, on le conseille à Saïra, Actes Sud.
Oui, ça donne envie. Hein.
Ça donne envie.
Ouais, ça fait un peu à la fois anticipation, mais...
Disons que l'avoir sorti, en fait, il expliquait qu'il avait quand même été sur une île grecque pour étudier un petit peu, pour voir les mouvements migratoires. Donc, c'est vrai que de la façon dont il décrit aussi ces camps, ces zones de stockage temporaire, ça s'appelle... on sent du vrai par rapport à ce qu'on découvre nous aujourd'hui, mais on se rend compte aussi que c'était quelque chose qui était latent depuis un petit moment, et il faut lire la fin, mais
voilà, on va pas en dire plus. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est le genre de livre que tu aimes bien, Nico, toi. D'après ce que tu nous as présenté. Oui, non, mais c'est vrai, c'est roman d'anticipation politique.
Non, mais je le dirais. Oui, à la fois, ça traite de la société, c'est très politique. Mais en même temps, il y a une note d'humanisme et puis
d'espoir.
D'espoir, ouais, on pense que.
Et puis pas d'agressivité. Moi qui suis un peu sceptique à tout ce qui est de passer en force, de passer par la violence, qu'elle soit verbale ou physique. C'est l'humain qui.
Tu n'as pas aimé Rambo, par exemple?
Disons que je l'ai apprécié différemment que ce que j'ai apprécié ce livre.
Voilà, on va rester sur cette note-ci. Otages intimes, Jeanne Benhammer.
Jeanne Benhammer. Moi, présent.
Non, c'est toi, Nico, qui l'a
lu. Moi, j'ai lu sur les conseils d'Héloïse. Hein. Alors, vous dire d'abord que Jeanne Benhammer, c'est quand même un auteur qui est assez connu aujourd'hui. Elle a écrit pas mal de bouquins assez, qui ont quand même défrayé un peu la chronique. Les demeurés, oui, profanes, laver les ongles, pas assez pour faire une femme. Voilà, c'est des bouquins qui ont un peu secoué le monde de la littérature. Hein, voilà. Alors, qui est-elle en fait? C'est Jeanne Benhammer. En fait, elle est née dans un petit village, dans une petite ville d'Algérie, d'un père arabe et d'une mère italienne. Elle est arrivée en France en fait à l'âge de 5 ans. Et ensuite, sa famille s'installe vers La Rochelle. Voilà. Elle devient professeure de lettres en 2001. Elle a publié chez différents éditeurs, notamment les éditions Thierry Magnier et de Noël. Elle est aussi directrice de collection maintenant, chez Thierry Magnier et chez Actes Sud Junior. Voilà. Alors aujourd'hui, elle est à Paris. Elle écrit du théâtre, des romans, de la poésie, des nouvelles. Elle a reçu le prix UNICEF sur son roman Les Demeurés. En 2001. Voilà. Et elle a reçu aussi le prix RTL Lire 2013 pour Profane. Voilà. Alors, ce bouquin, en fait, c'est un bouquin que j'ai trouvé assez exceptionnel, je dois le dire. Je m'y suis plongé dans ce bouquin comme on se plonge dans un recueil de poésie. C'est-à-dire, tu prends le temps de lire chaque mot, tu prends le temps de comprendre où elle en est dans cette histoire. C'est une histoire qui raconte celle de Étienne, qui est en fait un reporter de guerre, donc qui a couvert avec ses photos bon nombre de guerres et d'histoires de guerre. Et à chaque fois, il se fait le témoin, voilà, de ces histoires. Et un jour, en fait, il est pris en otage et libéré. Il rentre à Paris, où il retrouve un petit peu, où il essaye de retrouver sa vie. En fait, c'est la description de tout ce passage et de toute cette mémoire de ce qu'il a vécu, qui est décrit avec une extrême sensibilité. Voilà.
Oui, on sait que c'est extrêmement compliqué pour les gens qui ont été otages de retourner à la vie normale. On a eu plein de témoignages dans la vraie vie de vrais otages et le rapport avec la société d'après, avec les gens, c'est
très compliqué. En même temps, elle décrit extrêmement bien, mais on n'en souffre pas dans le livre. C'est-à-dire qu'à aucun moment on souffre de ce qu'il vit. On est plongé dans cette espèce de symbiose avec ce personnage qui nous décrit. Comment il est considéré par ses geôliers, dans quel état en fait il se met, quels sont les mécanismes qui lui permettent de quelque part de rester humain, de survivre et de pas tomber dans l'animalité quoi. Et c'est toute cette approche mais qui est extrêmement sensuelle. Et du coup on le vit à travers son corps, on le vit à travers sa peau, à travers des petits rituels qu'il a, etc. Et c'est pas ça de oiseau, mais c'est extrêmement c'est extrêmement intime.
Pourquoi tu dis ça, voilà. Nico?
Du coup, non, parce qu'elle fait des gestes, Valérie.
J'ai du mal à imaginer sur
la sensualité du geôlier. Ouais.
Bon, après, c'est le syndrome de Stockholm, mais la sensualité.
Non, c'est pas du tout ça. Eh ben, c'est très sensuel parce qu'en fait, peut-être que c'est pas le mot adapté, mais
les corps se touchent.
C'est-à-dire que voilà.
Le lasso fouette.
Sensuel dans le sens. Hein, ah. C'est-à-dire on fait parler les sens, voilà. D'accord. On fait parler ce que le corps exulte, comment le corps il exprime ses tensions ou ce manque de tendresse ou tout ça, tous ces rapports, le manque de verbe aussi, le rapport à la parole quand t'es tout seul dans une prison de 3x3 ou même pas, où il est obligé de, où il peut pas dormir allongé, où il dort accroupi, donc où il se lève, il peut pas marcher, donc il a des courbatures, il maigrit. Enfin, c'est tout cet état de décomposition à la fois de son être physique et de son être moral. Voilà. Et donc quand il sort de ça,
vas-y.
Quand il sort de ça, c'est comment on se réhabitue à la vie et qu'est-ce qui fait sens dans notre société. Et c'est ça ce que j'ai trouvé extraordinaire, la façon dont elle en parle, c'est comment on regarde le monde aujourd'hui et à quoi on se rattache quand on a vécu une épreuve aussi difficile. Mais je pense que c'est les mêmes épreuves quand on a failli mourir dans une avalanche, quoi, et qu'on est resté et qu'on sort de ça et qu'on se dit, je suis passé à quelque chose, j'ai failli mourir, et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la vie ? On n'est pas le même. Voilà. Et là, elle décrit très très bien qui était ce personnage et vers quoi il va. Et en fait, il se raccroche à ses proches, notamment à sa mère qui joue un rôle très très important, qui est aussi un personnage qui a toute une histoire qu'on découvre sur ce roman et qui raconte comment elle, en fait, elle a fait de son fils un petit peu son œuvre, quoi, et qu'à la fin, si elle arrive à l'aider à s'en sortir, ben sa vie aurait été accomplie. Voilà.
Est-ce qu'on sait si elle s'est renseignée auprès de vrais otages pour écrire ce livre en les questionnant sur l'après ou c'est totalement une fiction ?
Non, c'est quelqu'un qui fait un énorme travail de recherche et d'enquête, qui ne part pas du tout là-dessus en se disant quelles seraient mes impressions si j'étais...
Voilà. Donc on peut s'imaginer qu'elle est allée à la rencontre.
Elle fait un gros gros travail, et même je pense dans l'écriture ça ne doit pas être très simple. Parce que c'est une écriture qui est à la fois très, très facile, c'est très simple à lire, mais il y a tellement d'images et de sensations et de sensualité et d'émotions qu'en fait, quand on rentre dans ce texte, moi j'ai lu ce texte avec recueillement, comme quand on lit une lettre intime que l'on a longtemps attendue, avec la gorge nouée, persuadée d'avoir en main un livre exceptionnel par sa force. Alors, juste un petit extrait, c'est dans ce texte d'une infinie pudeur, Jeanne Benhamer essaie d'expliquer ce qui est inacceptable, l'horreur de la guerre, de la détention, et comment ces ravages provoqués par la captivité créent aussi chez les autres, chez les proches, en fait, des blessures très très profondes. Par exemple, sa mère dit dans le livre « Derrière les paupières de mon fils, il y a l'horreur du monde ». Dans cette tête que je caresse, puisque là il est revenu, elle le prend chez elle pour essayer de le réhabituer à la vie sociale. Dans cette tête que je caresse, combien de cris perdus, d'appels de paroles brisées, les ruines de tant de vie, les ruines, oh mon Dieu. Comment faire pour vivre dans les décombres, la désolation et les larmes d'Étienne coulent aussi sur son visage. Voilà, et lui en fait, la façon qu'il a de travailler sur son rôle dans la société, de se dire je suis reporter de guerre, mais finalement à quoi ça sert, quoi. Et il dit un truc qui est, je trouve, très très juste. Il dit: la vie n'est sacrée pour personne dans les guerres. On parlera toujours du nombre de tués. Tant qu'on n'en a pas vu leur visage, on ne sait rien. Et lui, il est là pour ça. Il continuera à regarder les visages. La vie ne vaut que comme ça. En fait, il explique que sa raison d'être, sa raison de vie, c'est de faire des photos pour témoigner pour les autres, pour que les autres aient ce regard et puissent avoir un regard sur la guerre, quoi. Voilà. Et c'est sa fonction à lui, et il le découvre à travers ce livre. Voilà. En tout cas, un bouquin d'une grande, grande émotion.
Et du coup, qu'est-ce que tu penses du titre ? Parce que c'est « Otage intime » au pluriel, en fait. On ne parle pas que d'Étienne dans le titre, c'est au pluriel.
Je crois que c'est un hommage à tous ces captifs, en fait. Que c'est pas... ça peut être Étienne, mais ça pourrait être tous ces reporters ou ces journalistes qui ont été... qui ont été emprisonnés depuis des décennies. Étienne, c'est un prétexte, quoi, hein, voilà.
D'accord.
C'est les Étienne, c'est voilà.
Y a-t-il de l'espoir dans ce livre, Nico? non mais c'est vrai, bah, c'est sombre quand même ce que tu nous expliques. On sait que
c'est très sombre, c'est-à-dire qu'on en ressort un peu marqué. En même temps, c'est difficile parce qu'on nous parle tous les jours. Bon, Étienne machin, il en est à son 355e jour de détention. Marie machin, ça fait 680 jours. Bon, on nous rabâche ça sur les médias. On vit pas, on comprend pas ce que c'est le jour où ils sont libérés. On les voit reçus par le président de la République, descendre d'un avion, tout va bien, ça y est, c'est fini. Ben, en fait, ça commence. C'est pas fini, ça commence.
C'est ça.
Et en fait, ce livre, il est très, très intéressant parce qu'il nous amène à nous poser la question. En fait, c'est jamais fini, quoi. C'est-à-dire, c'est quand on est privé de tout ça, on arrive, on est dans la situation que quelque chose va changer dans la vie de ces gens. Et nous, en tant que témoins, on n'est pas du tout conscients de ça. Voilà. Et elle parle de ça. Et c'est d'une grande profondeur. C'est très, très bien écrit. C'est pas larmoyant. On s'attend pas à ça parce que dans le livre, il y a beaucoup d'espoir, notamment comment les proches et l'environnement proche est un facteur déterminant dans la sortie de cette crise intellectuelle. Et comment essentiellement l'amour Donc les amours, ceux de toutes ces femmes qu'il a connues, ceux de cette femme qui a disparu et qu'il a attendu, etc. Ceux de cette jeune fille qui a vécu toute son enfance avec son ami intime et que ce trio aurait fait quelque chose de formidable et qu'il est né de ça un amour et sur lequel il va se raccrocher à cette enfance et qui fait que ça le sauve. Donc c'est un espoir terrible derrière. Tu vois, c'est pas grave du tout. Voilà. C'est un bouquin qui se lit. Donc là, je l'ai acheté à deux personnes qui l'ont lu et qui sont aussi transportées. Ben oui, parce qu'on contribue aussi à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lire et c'est aussi donner envie aux autres de lire, mais aussi de partager ces grands moments. Quoi.
J'ai fait pareil avec les livres que j'ai lu cet été. Mais justement, avant que je présente mon livre et Héloïse Le Sien, on va faire une pause musicale car c'est déjà une heure. Alors, tu nous as choisi une chanson, Héloïse.
Oui, c'est de la pop galloise Marina and the Diamond.
Vous comprendrez pourquoi.
Savage.
It's survival of the fittest, rich against the poor. At the end of the day, it's a human trait hidden deep down inside of our DNA. One man can build a bomb, another run a race to save somebody's life and have
Et c'est dommage que vous puissiez pas nous entendre parce que ça parle littérature hein, pendant les pauses musicales.
Des gros débats.
Ça n'arrête pas. Gros débat, ouais.
On était tous d'accord, ceci dit au moins.
On était tous d'accord, absolument.
Non, pas moi.
Sauf Nico.
Mais toi, tu voulais parler sport, donc.
Oui, je sais pas pourquoi. Ouais, tu parles sport pendant qu'on parle littérature.
Tu balances. Ok, d'accord. D'accord.
Petit piment, Alain, Mambucou, Le Seuil et
oui,
Louise.
Oui, aux éditions du Seuil. Donc,
c'est mal de mentir.
Pardon ?
C'est mal de mentir beaucoup.
Mambucou.
Non.
C'était la blague de l'émission. Ouais. Franchement, bravo là.
Alors, un livre qui monte au nez. Petit piment.
Alors, Petit Piment, donc effectivement, c'est l'histoire de Petit Piment. Petit Piment, c'est un enfant, un personnage qui vit au Congo. Et son vrai nom, donc, je vais vous lire son vrai nom, il s'appelle Tokumisa Nzambe Mpo Moz Yamoyindo Abotami Namboka Yabakoko.
D'accord. Alors, Nico, qui suit, tu peux nous répéter, s'il te plaît, le prénom de
Mamboko.
Donc, ce qui veut dire en lingala, rendons grâce à Dieu, le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres. Voilà, donc ce petit garçon est né, a été abandonné par ses parents, mis devant la porte d'un orphelinat au Congo. Il a été recueilli donc par le prêtre qui tenait l'orphelinat et qui lui a donné ce charmant nom. Et donc ça se passe dans les années 60. Donc années 60 Congo, donc révolution marxiste, contexte assez difficile. Cependant, il passe une enfance assez heureuse dans cet orphelinat, entouré de plein de personnages qu'il aime beaucoup, la femme de ménage, le prêtre, le gardien, etc. Il y a juste le directeur qui est pas très sympa, mais ça passe. Et donc, du coup, c'est une enfance vraiment heureuse, en couleur, avec des personnages super. Notamment son meilleur ami qui s'appelle Bonaventure. Bonaventure qui attend, qui regarde passer les avions toute la journée. Et qui attend en fait que l'un de ses avions se pose dans la brousse et vienne le chercher parce qu'il est persuadé que son père est riche. Enfin, voilà, c'est des milliers de petites histoires comme ça qui entourent Petit Piment. Et tout va basculer en fait le jour où la révolution atteint son summum, en fait la révolution marxiste. Et donc là, tout le monde est viré de l'orphelinat, enfin le personnel en fait qu'il connaissait. Et sont remplacés en fait par des gens qui vont essayer de les éduquer selon les principes de la révolution. Ils essayent d'en faire des petits soldats. Du coup, il s'enfuit de l'orphelinat. Et il va devenir en fait un gamin des rues à Pointe-Noire. Pointe-Noire qui est la capitale du Congo.
Et donc, un Oliver Twist, quoi, c'est ça ?
C'est ça, c'est un Gavroche, un Oliver Twist africain, ouais, tout à fait.
Une ville extrêmement dangereuse à l'époque, Pointe-Noire, avec un des plus grands bidonvilles du monde.
Tout à fait, oui, oui. Donc voilà, et donc là, c'est à la moitié du roman, il s'enfuit, et là, c'est toute une autre partie qui s'ouvre, qui est un peu plus sinistre, un peu plus sordide. Avec quand même des...
On repart sur les mêmes bases que l'an dernier, c'est bien.
On peut s'arrêter
c'est bien.
La première partie.
Mais... Ouais. Voilà, mais c'est quand même un récit, un rythme incroyable, c'est vraiment très exaltant comme écriture. C'est presque comme un conte. Alain Mambucou, c'est vraiment un conteur. Il sait trouver des métaphores, des images, des associations de mots. Il joue vraiment avec la langue. Il écrit en français.
Et, c'est un congolais.
Oui, alors il est né au Congo et il vit entre le Canada et Los Angeles, il me semble. Voilà, c'est un auteur vraiment reconnu. Il a écrit une vingtaine de romans, il a eu pas mal de prix. Voilà, c'est pas n'importe qui. Donc, oui, donc voilà, ça, j'arrive.
Donc, Louise tourne beaucoup... sa page.
Ça va, je ne lis pas, j'ai juste besoin de quelques
notes.
Non,
mais notes. C'est bien.
Et Louise est malade.
Et Louise est malade aussi.
Donc Alain Mambucou puise énormément dans ses souvenirs d'enfance. Cependant, Petit Piment, ce n'est pas lui, parce qu'il a eu une enfance assez aisée comparée à Petit Piment. Mais il y a certains personnages, certaines expressions qui puisent dans ses souvenirs. Il retourne régulièrement au Congo aussi et il parle beaucoup aux enfants, aux enfants abandonnés, aux orphelins. Et donc, d'ailleurs, je vais vous lire la dédicace du livre que je trouve assez touchante. En hommage à ces errants de la côte sauvage qui, pendant mon séjour à Pointe-Noire, me racontèrent quelques tranches de leur vie et surtout à Petit Piment qui tenait à être un personnage de fiction parce qu'il en avait assez d'en être un dans la vie réelle. Voilà, donc Petit Piment s'est inspiré de tous ces enfants en fait qu'il a côtoyés, qu'il a croisés. Et ce livre est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. C'est extrêmement touchant, extrêmement vivant. Voilà, c'est comme un conte. C'est, on a l'impression de se faire conter une histoire qui a quelquefois effectivement des moments très tristes, mais il y a aussi des moments de fulgurance littéraire magnifique. Voilà.
Très bien.
On est tous sans voix.
Ça donne envie beaucoup.
Nico, qui était en train de faire des recherches sur son ordinateur, tu peux nous sortir une bonne question, une petite anecdote ?
Alors, il fait allusion souvent à Georges Brassens. Tu as
oui,
retrouvé
Georges
ça ?
Oui, Georges Brassens, c'est dans La Gouaille, c'est dans... Effectivement, je te disais, toutes ces expressions... Oui, oui, tout à fait. Avec, Merci Wikipédia.
Non, non, ça, c'est pas Wikipédia, je suis désolé. Je suis désolé. C'est Télérama.
Ah, bravo. Le Wikipédia du bobo.
C'est exactement ça. C'est très
bien
sorti.
Ça, nos amis
je
parisiens.
Rigole, pardon.
Ils vont aimer ça, nos amis parisiens. Bravo.
Le livre
bravo.
4T à la rentrée.
Alors, il a 2T sur Télérama. Ah. Voilà. Petit piment, mais il y a
bien,
de belles éloges.
C'est moyen.
C'est moyen.
C'est,
moyen
bah, c'est 3T le must, non ?
Non, 4.
Ah, c'est 4. 4.
Ah ouais, 3. Donc c'est bon. Juste la moyenne, quoi.
Tu n'es plus abonné à Télérama.
Non, mais je ne l'ai jamais été.
Et ouais.
On n'est pas obligé. Hein.
Non, du tout. Non.
Sinon, Petit Piment aussi, c'est le nom d'une boutique qui fait des couches lavables hein, et des vêtements pour enfants. Si vous voulez une.
Merci.
Les renseignements voilà. Sur l'ADEME.
Ok, merci Héloïse, Alain, Mambuku, Le Seuil, Petit Piment. Tout à l'heure avec Nico, on parlait d'otages dans ce premier livre qu'il nous a présenté, Otages intimes. Pauline, tu as lu un livre aussi cet été qui parle de ça ?
Alors, qui parle surtout des correspondants de guerre, et qui résonne bien aussi avec celui d'Héloïse. Finalement, on est tous un peu sur le même thème. Donc moi, mon bouquin, là, c'était Un papa de sang de Jean Hatzfeld, qui est dans la Blanche de Gallimard. Et alors, je vais pas dire que c'était un coup de cœur parce que c'est pas été un vrai plaisir de le lire. Par contre, je pense que c'est un livre qui va me marquer, qui va me rester longtemps. Jean Hatzfeld, donc, comme j'ai dit, il était reporter de guerre depuis le début des années 80. Donc, il a couvert des conflits au Moyen-Orient, la Croatie, la Bosnie. Et il tirera de tout ça plusieurs livres, parce que c'est pas des romans, il ne romance pas. Et notamment, il a été au Rwanda peu après le génocide. Et là, en fait, il a été très étonné du manque de résonance du conflit du génocide rwandais. Et du coup, il s'est dit, bon, bah, je m'installe. Il s'est installé là-bas pendant 4 ans, dans les marais. Et il a rencontré des Tutsis, des Hutus. Il a écrit au total 5 bouquins qui racontent le conflit. Qui racontent le conflit vu des deux ethnies. Et dont, récemment, Un papa de sang. Donc là, Un papa de sang, on est 20 ans après le génocide. Et là, il a décidé de rencontrer des enfants de Hutus et de Tutsis qui n'ont pas vécu le massacre, mais qui se retrouvent aujourd'hui à vivre avec cet héritage-là qui leur pèse, qui sont des enfants de Hutus et de Tutsis qui ont soit été tueurs ou rescapés. Le terme tueur n'est pas forcément... Mais bon, c'est ça, hein. Et donc, il donne la parole à ses enfants et il leur fait raconter leur vie quotidienne. Alors, il y a toute une part de vie un peu classique de jeunes. Ils vont sur Facebook, ils écoutent de la musique, ils vont danser. Et il y a toute cette partie d'eux qui est un peu hantée par le passé de leurs parents, qui sont soit encore leur père est emprisonné parce que il a usé de la machette, ou leur famille a été décimée, mais ils l'ont pas vécu. Mais c'est là, c'est vraiment là en eux. Et ils savent pas vraiment quoi en faire, en fait. Là, il s'exprime, donc c'est plus un reportage qu'un roman. C'est pour ça que je dis pas roman, c'est qu'il leur donne clairement la parole. Hein. C'est eux-mêmes qui s'expriment. Et ils savent pas vraiment s'ils ont envie de savoir. Et puis en même temps, ils ont une certaine curiosité parce que ça fait partie de leur histoire. Ils apprennent ça à l'école, mais sans jamais accuser aucune des deux ethnies. Les ethnies sont un peu bannies aujourd'hui au Rwanda. On leur donne plus de place. C'est trop violent, sûrement. C'est trop... On peut pas. Et en même temps, ils vont visiter le mémorial du génocide. Donc, c'est très présent chez eux. Et donc, il y a un certain malaise. Il y a du côté des Tutsis une certaine haine, mais qu'ils n'arrivent pas vraiment à exprimer. D'ailleurs, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils la ressentent envers leurs amis, parce que finalement, leurs amis n'ont rien fait. C'est leurs parents. Et chez les Hutus, il y a une certaine culpabilité due à la vie de leur papa régulièrement. Donc, on lit un peu la même histoire à chaque fois, de chaque côté, de chaque ethnie, avec un même sentiment qui revient chez tous les jeunes, mais on s'y habitue pas. On se dit c'est vraiment lourd à porter pour eux, et il y a beaucoup de séquelles. Et ce qui est assez dur, ce qui est assez marquant, c'est qu'on se dit ça va durer et durer et durer dans le temps. C'était tellement énorme, ça a été tellement violent et rapide que ça va rester et que ça va hanter des générations et des générations. Et je pense que ça, c'est un peu ça qu'il a voulu faire vivre Jean Hatzfeld, montrer quelles conséquences ça peut avoir. Tant en termes humains que d'ailleurs matériels, parce qu'il y a plein de... Oui. Là, aujourd'hui, ils vivent beaucoup dans des maisons en terre. Enfin, voilà, y a, tout a été saccagé, tout a été détruit. C'est vraiment... ça a été d'une violence inouïe.
On sent un certain malaise dans tes propos qui semblent traduire ce que tu as lu.
Ben oui. Oui, c'est ça, parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer clairement ce qu'ils ressentent, sûrement parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ressentent, en fait. Tous ces jeunes, ils ont donc entre 16 et 20 ans, à peu près... parce qu'ils sentent que c'est là dans l'esprit de toute la population, que eux ils doivent le comprendre, ils doivent aussi vivre avec, mais ils ne l'ont pas vécu et ils sont responsables de rien. Ils savent pas forcément toujours exactement ce qui s'est passé, parce que par exemple les parents Hutu, le père Hutu qui est emprisonné aujourd'hui, ne raconte pas en détail ce qu'il a fait, parce que bon, c'est trop. Les familles Tutsi, pareil, racontent un peu la vie qu'ils ont pu vivre caché dans les marais ou tout ça, mais c'est trop lourd à porter, je pense, pour être raconté. Les parents n'ont pas forcément envie de dire, les jeunes n'ont pas forcément vraiment envie de savoir, et en même temps, tout le monde est curieux parce que ça fait partie de leur histoire. Donc effectivement, on sent dans tout le bouquin un malaise, dans tous les témoignages, un certain malaise par rapport à ça, de « je cache, mais je veux savoir », et...
Et si jamais j'en sais trop, ça risque de
qu'est-ce que ça peut faire, voilà.
Oui. Ouais, après, c'est tellement récent, enfin, c'est une plaie à vif encore. Donc
mais complètement,
c'est vrai
ouais.
que là, il n'y a qu'une génération, c'est compliqué à gérer.
Oui. Oui, et puis c'est la première génération qui ne l'a pas vécu, qui vit avec.
Et ses enfants, ils sont tous ici ou tout
oui,
ou sont,
les
c'est
deux.
Ça
les deux.
Ils parlent de ces relations entre les deux.
Ils parlent vraiment de leur vie quotidienne, donc à chaque fois un peu sur le même schéma. Qu'est-ce que tu fais la journée? Où tu vas à l'école? Comment tu te comportes? Parce que donc ils sont mélangés, Hutu et Tutsi aujourd'hui dans les écoles. Ils ne doivent pas exprimer leur appartenance à leur ethnie, mais tout le monde sait qui est Hutu, qui est Tutsi, qui a tué qui, parfois même. Voilà, ils savent ça, ils vivent ensemble. Et voilà, c'est...
Mais en même temps, ils arrivent à vivre ensemble ou pas?
Ils arrivent à vivre ensemble. Mais par exemple, il y a toute une partie à chaque fois dans chaque témoignage. Est-ce que tu te marierais avec un Tutsi ou un Hutu? Et c'est là qu'on sent que c'est encore présent. Non, je ne suis pas sûre que je pourrais. Alors oui, mais mes parents ne l'accepteraient pas. Donc là, il y a un frein quand même. Ils vivent ensemble, mais il reste quelque chose qui fait que...
Donc
de toute façon,
du boulot, quoi.
Ouais.
Mais quelque part, ce n'est pas une façon de dire, vous voyez, on peut avoir des origines ou des croyances ou des... Enfin, d'être originaire d'ethnies différentes et pouvoir créer du vivre ensemble dans la mesure où on met ça de côté.
Oui.
Est-ce que c'est pas un lien avec ce qu'on vit aujourd'hui entre les religions chrétiennes et musulmanes? Se dire, est-ce que c'est pas la solution?
Ouais, moi, je pense encore plus loin. Tu vois, je pensais à Israël et j'allais mettre le conflit encore plus grand en me disant, lisez ce livre et vous verrez qu'on peut. Cohabiter.
Alors,
avec
des difficultés. Voilà, avec toujours un poids.
Ça montre que c'est possible.
Mais c'est tout à fait possible.
Ça montre que c'est possible quand on met certaines choses dans le cercle de sa vie privée et pas sa vie publique. Quoi, voilà.
D'où le malaise encore, parce que c'est frais, mais ça montre que c'est...
Oui, voilà, je pense que là, c'est tellement récent et tellement... Ouais. Voilà.
Mais le fait que ça se passe dans une école, enfin dans l'école quand même.
Non, ils racontent leur vie de tous les jours, hein, du matin au soir, la vie au champ, la vie au travail pour certains, puisque beaucoup ne peuvent pas aller à l'école parce que beaucoup d'enfants de Hutu, par exemple, n'ont pas les moyens de payer l'école parce qu'ils ont été, bon, ils ont tout perdu aussi, suite au conflit, justement. Et donc, ils se retrouvent, avec, par exemple, une certaine jalousie face aux Tutsis, parce que les Tutsis sont aidés, on leur paye l'école pour beaucoup. Voilà, il y a tout ça qui est présent, et le malaise, là, le terme de malaise, c'est vraiment tout à fait ça, je pense, qui vivent tous les jours.
Et sans incident, enfin, là, sur tout le livre, il y a par contre, voilà, ils arrivent à garder pour eux. Et,
oui, Oui, ça reste, ça reste toujours. Voilà,
suivant ce que tu dis, plus que le vivre ensemble, d'en parler Nico, c'est plutôt comment vivre son histoire que l'on n'a pas vécue.
Oui.
Comment arriver à se construire.
Comment on porte la responsabilité aussi.
Oui, comment on porte la responsabilité
plutôt,
aussi.
Plutôt là, ouais.
Ouais. Mmh. D'accord, super.
Mmh. Ouais. Vraiment à lire, et je pense, moi, alors j'ai pas lu les autres livres sur le génocide rwandais de Jean Hatzfeld, mais je pense que ça, c'est vraiment intéressant.
Mais Jean Hatzfeld, c'est qui en fait?
Alors c'est un journaliste.
C'est un journaliste.
Ouais. Mmh. Ouais.
Moi j'ai lu un livre.
Qui s'est spécialisé dans ces questions-là?
Oui, mais tardivement. Enfin, il a commencé par créer le service des sports à Libération.
D'accord.
Et puis d'un coup, il s'est retrouvé reporter de guerre.
D'accord. Mmh. Ah oui, d'accord.
Ouais.
Moi j'ai acheté un livre chez Héloïse sur ça qui s'appelle Tutsi, maman attend un bébé. Il y a deux jours. C'est pas ça?
Oui, c'est le Tchoupi africain.
Ah, c'est Tchoupi, maman attend un bébé, pardon. Très bien.
Quel humour.
Je viens de comprendre.
Ouais. On fait comme on peut.
Il faut dire que
et c'est la reprise.
En ce moment, ça le trahit énormément. Tu vois, maman attend un bébé.
Non. Je pense qu'il y a certains libraires qui profitent de mon état pour me vendre des livres. Mais bon,
ouais, c'est ça.
Je ne reviendrai pas là-dessus.
C'est
un papa Choupa. De sang, Jean Hatzfeld, donc a conseillé fortement à nos auditeurs et aux lecteurs.
Moi, ça m'a donné envie.
Ouais. On pourrait parler des bâtisseurs de l'oubli, c'est plus gai, mais où on le garde pour la semaine prochaine?
On peut, parce que ça peut être intéressant.
Mais on va le garder, je pense. Non, plutôt Nico. Alors, quelle heure il est? 13h22. Ouf,
pourquoi pas ton livre, Ludo?
Ah oui, vous voulez que je vous...
Parce
que
non, moi, mais c'est... la semaine prochaine, ça ira bien avec les bâtisseurs de l'oubli, je pense.
À Claro, crash test, je pense aussi.
Ça
ouais.
irait bien, je pense, avec les bâtisseurs.
Dans 15 jours.
Dans 15 jours, oui.
Dans
parce que
jours.
Les bâtisseurs, les crash tests, un construit, l'autre détruit.
Ouais. Ah oui, on fera un lien.
C'est vachement complémentaire.
Super. Bon, mais on...
C'est beau.
Qui veut parler, Nico, Jean-Michel Ribes ou Héloïse Le Mauvais
Oeil? Je vais en parler rapidement, Jean-Michel Ribes.
Vas-y, Nico, t'inquiète.
Voilà, mais vite, teuf. En fait, Mille et un morceaux. Donc ça, c'est le dernier bouquin de Jean-Michel Ribes.
C'est du théâtre?
Non, du tout. Oh. Mais je vais vous parler un peu de Jean-Michel Ribes parce que quand même, c'est quand même quelqu'un qu'il faut connaître un petit peu, quoi. Alors, il dit de ce bouquin, écrire une autobiographie est impossible. Même en morceaux. Ça s'appelle Mille et un morceaux. Je me suis donc jeté avec gourmandise, sachant que c'était foutu d'avance. Voilà, c'est un peu le personnage. Alors, Jean-Michel Ribes, il faut quand même en parler. C'est un acteur, d'abord, un dramaturge. Il a mis pas mal de spectacles en scène. Réalisateur et scénariste français. Actuellement, il dirige le Théâtre du Rond-Point à Paris. Il accueille beaucoup de spectacles, notamment celui de l'auteur dont on a parlé au tout début, voilà, qui a été accueilli au Théâtre du Rond-Point. Il a mis en scène de nombreuses pièces contemporaines, Sam Shepard, Copy, c'est des auteurs quand même qui sont assez violents, hein, Topor, Jean-Claude Grimbert, Arabal. Il a réalisé de longs métrages, dont Chacun pour toi avec Albert Dupontel et Jean-Yann, et Musée haut et Musée bas, tiré de sa pièce qui porte ce nom-là. En 2001, il reçoit le prix Plaisir du théâtre pour l'ensemble de son œuvre, et en 2002, le Grand Prix du théâtre de l'Académie française. Donc c'est quelqu'un qui est très connu sur la place quand même, hein. Beaucoup autour du théâtre et du cinéma. En 2002, il reçoit le Molière du meilleur auteur francophone pour sa pièce Théâtre sans animaux, et il reçoit aussi le Molière de la meilleure pièce comique. Voilà, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur et en 2008, il préside le jury du premier festival francophone d'Angoulême. Pour la première fois, en fait, Jean-Michel Ribes, il essaye de se raconter dans ce bouquin. C'est un bouquin qu'on peut mettre sur une table de chevet et puis le prendre, en prendre un petit bout et puis passer à autre chose. Voilà. En fait, ce sont des anecdotes, ce sont des histoires, c'est ses rencontres, c'est ses engagements, ça parle de création. En fait, il a dans ce bouquin, à chaque fois, on retrouve à la fois cet humour, ce comique, ce jeu avec les mots. Il parle aussi de toutes ses rencontres, hein, avec les acteurs, les artistes, les politiques, les proches. C'est quelqu'un qui a été très engagé politiquement dans la dernière campagne, hein, qui s'est positionné radicalement. Voilà. Mais qui en même temps, plus que de s'attacher aux hommes, s'attache aux idées qu'il défend, quoi, hein, et notamment sur la culture et le rapport à la culture. Et donc c'est un récit qui est foisonnant, qui est parfois irrévérencieux, qui est marrant, on rigole beaucoup en lisant ça. il passe de choses qui sont assez où il y a beaucoup de matière dedans, où il y a beaucoup de réflexion, à des choses qui sont très légères, quoi. Voilà. Avec parfois, je pense, des histoires vraies dans cet ouvrage. Voilà. Et c'est écrit avec une plume qui est très drôle, qui est très marrante, qui est très légère aussi. Hein. Voilà.
Mais il a la faculté de parler. Tu as l'impression qu'il parle toujours très sérieusement. Il place les il peut dire des traits d'humour dans des discours qui paraissent très sérieux. Et à l'inverse, des fois, il va sortir la boutade et ça voudra dire plein de... Il va passer plein de messages en même temps.
Alors, il n'en est pas à son premier ouvrage. Hein, il en a écrit pas mal déjà. Il a écrit monologue, bilogue et trilogue. Voilà, le jeu de mots. Muséo, musée bar, théâtre sans animaux et palace. Voilà. Juste un extrait, par exemple, il dit, pour imaginer un petit peu le style, il dit « La langue de bois, langue écologique qui ne pollue pas la pensée dans la mesure où elle n'en contient pas. Une grande idée n'est pas celle qu'on suit, c'est celle qui en fait naître une autre. Quand il n'y a plus de chance, il y a encore l'espoir. » Voilà, donc c'est ce style qui est délectable, quoi, et donc sur une table de chevet, ça peut être un petit bouquin d'accompagnement quand on a marre de lire un gros bouquin. Quand on a, mais c'est écrit gros quand même. Hein, quand on a marre de lire le bouquin qu'on est en train de lire, on prend ça, on lit quelques pages et c'est sympa.
Quelle maison d'édition pour ce livre ?
C'est Iconoclaste.
Iconoclaste, pardon.
Et ceux qui aiment Rib et qui aiment des fois s'aventurer à lire du théâtre, je vous conseille les batailles de Rib et Topor. Ils l'avaient écrit ensemble. C'est des petites histoires qui mettent en scène des batailles, batailles navales, batailles entre voisins. Et c'est hilarant, c'est très facile à lire. Et c'est du Rib. C'est 100% Rib.
Oui, là, je le feuillette depuis tout à l'heure. C'est assez drôle, effectivement.
Oui, c'est drôle. Moi, j'ai pas tout lu, hein, puisque ça se lit. Bon, il y a des choses que j'ai lues viteuf, et puis des choses qui m'ont moins intéressé, mais il y a quand même beaucoup de choses dedans. C'est très très, c'est très très divers.
C'est plus léger que tous les livres qu'on vient de présenter.
Ah oui, 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 c'est un moment détente. Hein.
Bien finir. Ok, limite. Choisissez un des livres qu'on a présenté en première partie, plus celui-là, comme ça, vous passez d'un à l'autre.
Oui, oui, c'est sûr. C'est un bouquin que tu peux garder sur ta table de nuit un petit moment. Quoi.
Et donc, est-ce que Rib, il a des travers pour le jeu de mots de la femme ? Pour ceux qui l'ont compris. Tu l'as.
Alors,
je suis toujours avec toi, Valérie.
Merci.
Ceux qui comprennent, écrivez-nous sur la boîte mail. Il y aura
un cadeau. Est-ce que Rib a des travers ? Exactement.
D'accord, Héloïse, tu as passé de temps hein, pour nous présenter.
Ah, bah non, surtout que c'est un gros coup de cœur. Donc, dans deux semaines, je vous présenterai Le Mauvais Œil.
Voilà, Le Mauvais Œil dans deux semaines, c'est un livre de
Pam Bouyakas.
En anglais, c'est Dark Eyes, c'est ça ? Non ?
De quoi ? Je n'ai pas compris.
Dark Eyes en anglais, Le Mauvais Œil.
Ah oui, oui, peut-être.
Ouais. Ouais. Non, tu demandes-nous si tu as besoin.
Tu nous feras un résumé bilingue, s'il te plaît, du livre.
Et ouais, pour la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, donc encore.
Enfin, dans deux semaines,
la rentrée littéraire. Du coup, dans un mois, ça sera un spécial.
Littérature et sport.
Voilà, littérature et sport, Nico, dans deux semaines. En attendant, on a encore des livres à lire pour cette rentrée littéraire.
Et des matchs de basket à regarder.
C'est fini,
aussi.
Stop, on arrête le basket.
Non, c'est fini le basket.
Oh, c'est fini, vous êtes trop chauvin. Hein.
Bon. La pétanque, non.
Je pourrais ressortir mon livre chez J'ai lu, Joël Batz, Gardien de ma vie.
Moi aussi, moi. Tu sais que ça a été le premier livre de ma vie.
Moi, c'était le premier.
Gardien de ma vie, c'était le premier livre que j'ai lu. Ouais, Joël Batz. C'est fou, ça. Incroyable. Avec les photos et tout.
Bah, les enseignants du boulot, quoi.
Et ouais. Non, moi je l'avais choisi, on m'avait proposé un livre, hop, Joël Batz. Ouais.
Je ne sais pas comment il est atterri dans lui-même. Mais je l'ai. Il avait les cheveux longs, il était beau. C'est peut-être pour
il
ça.
Il était beau, il chantait bien.
Le sable chaud.
Ouais.
Mais si tous les joueurs de foot se mettent à écrire des bouquins, les gars, ça on va rigoler un moment, quoi, non ?
Oui,
non, j'ai fait une bonne sélection, pas des choses, des biographies, des trucs comme ça, des trucs chouettes, quoi.
Donc Joël Batz, on n'a pas le droit.
Ah bah vous pouvez, mais on ne va pas en parler 10 minutes, quoi.
Ouais.
Il n'y a plus d'exemplaires à l'avance.
D'ailleurs. Vu que t'en as parlé déjà une minute, c'est bon, c'est mort. Ouais.
On n'en vend plus de ces livres-là. Allez, merci à vous toutes et à toi, Nico, d'être là. Et on vous retrouve dans deux semaines pour cette rentrée littéraire de nouveau. L'émission est rediffusée à 19h maintenant le lundi, plus à 18h10, changement horaire. Et elle sera podcastable dès cet après-midi. Allez, salut.
Salut. Merci.
Bon week-end.
Toi aussi.
Au revoir.
La
lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.